You're with SBS Radio.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de l'Union européenne, puisque vous le savez sans doute, depuis déjà quelques mois, il y a des négociations qui sont en cours entre Bruxelles et le gouvernement australien pour la signature d'un traité de libre-échange. Et aujourd'hui, pour en parler avec nous, on a deux personnes qui suivent très très bien le dossier et qui le connaissent sur le bout des doigts. Il s'agit de Cornelis Keyser, qui est le conseiller commerce de la délégation de l'Union européenne ici en Australie. Et il est également accompagné de Lionel Menildray, qui est le négociateur en chef sur la question précise des appellations d'origine contrôlée. Vous verrez que c'est un sujet qui est au cœur de ces négociations et sur lesquelles on va revenir en détail. Bonjour à tous les deux et merci de vous être déplacés jusque dans nos studios.
Bonjour.
Bonjour, c'est un grand plaisir que nous sommes là aujourd'hui.
Et c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, donc, comme je l'expliquais, il y a un accord de libre-échange qui est en cours de négociation entre l'Union européenne et l'Australie, comme l'Union européenne en a déjà signé, par exemple, avec le Canada. Alors, cet accord, déjà, tout simplement, pourquoi ? Quels sont les enjeux ? Quelle est la situation actuelle des échanges commerciaux entre l'Australie et l'Union européenne ? Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le tableau de la situation actuelle et ce qu'on en attend une fois que ce traité sera signé, s'il est un jour signé ?
Donc, en fait, nous avons des relations commerciales très étroites déjà. On a pas mal d'exportations à partir de l'Union européenne. On exporte des automobiles, des pharmaceutiques, chimie, textiles, vêtements, aussi beaucoup de services. Mais le problème qu'on a, c'est que l'Australie maintenant a des accords avec presque tous ses grands partenaires commerciaux. Donc ils ont des accords avec la Chine, les États-Unis, le Japon, la Corée, les pays de ASEAN. Tous ces pays ne payent plus maintenant les droits de douane. Donc ça nous met sur un désavantage. Et si on ne cherche pas à trouver un accord avec l'Australie, on serait marginalisé. Notre commerce sera en danger. Donc,
et vous perdriez en compétitivité par rapport à d'autres pays avec lesquels l'Australie entretient des relations étroites, comme par exemple l'Indonésie, qui est l'un de ses voisins et principaux partenaires commerciaux.
Par exemple, oui, et aussi, surtout par rapport à la Chine, les États-Unis, etc. Donc, ça, c'est notre motivation, mais quelque part, c'est aussi, c'est un choix. L'Australie, c'est un pays très proche au niveau de leur attachement aux valeurs, les droits humains, la liberté d'expression, le système juridique, etc. Donc, on est très proche. Donc, c'est quelque part, ce serait bizarre de ne pas chercher un accord avec ce partenaire privilégié qui est l'Australie.
Juste avant de rentrer plus dans le détail, pour donner un petit peu une image générale, dites-moi si je me trompe, je crois qu'actuellement, les échanges commerciaux entre l'Australie et l'Union européenne, c'est à peu près 100 milliards de dollars d'échanges par an, soit à peu près 60 millions d'euros, c'est ça hein ?
Oui, c'est tout à fait ça. Oui.
Et dans l'hypothèse où un traité de libre-échange était signé, donc abaissement des droits de douane, voire suppression totale des droits de douane sur peut-être certains produits, j'imagine qu'on peut s'attendre à un coup de boost. Est-ce qu'il a été chiffré ? Est-ce que vous savez demain à combien les échanges entre l'Australie et l'UE pourraient se chiffrer ?
Oui, on pense que pour les deux côtés, il y aura une augmentation de 35%. De chiffres de commerce. Donc on aura sur les deux côtés 35% en plus.
Ah oui, c'est énorme.
Oui.
Ok. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, puisque donc ça fait des mois et des mois qu'il y a des négociations, qu'elles vont encore durer des mois et des mois, puisqu'évidemment, de chaque côté, on s'accroche sur chaque détail pour être sûr que personne n'est lésé. Et il me semble, dites-moi si je me trompe, que l'un des principaux sujets de friction, c'est la question donc des appellations d'origine contrôlée. L'Europe protège plusieurs milliers de produits, qu'il s'agisse de produits laitiers comme le fromage, mais aussi des vins, des alcools, des spiritueux et même d'ailleurs certains types de viande. Et ça, ça coince avec l'Australie justement, puisqu'ici, dans les supermarchés, on trouve des produits tels que de la feta, du prosecco, du gorgonzola, qui sont made in Australia. Et ça, à Bruxelles, on n'aime pas trop.
Oui, bien sûr, on n'est pas ravi de la situation. Mais avant tout, je voudrais dire que si effectivement la question des appellations d'origine est une source de conflit dans cette négociation, c'est un des points parmi une multitude de questions qui sont négociées, que ce soit, comme on l'a évoqué brièvement, la question des droits de douane. Mais au-delà de la simple question des droits de douane, il y a tout un arsenal de dispositions qui sont négociées pour faciliter, accompagner, réguler, discipliner le commerce entre l'Union européenne et l'Australie dans le but de la faciliter donc ce commerce. Donc la question des appellations d'origine pour l'Union européenne, c'est une question qui est avant tout couverte dans le cadre des chapitres de la propriété intellectuelle. C'est un droit de propriété intellectuelle au même titre que des marques, des droits de des brevets ou des droits d'auteur. Et donc à ce titre, on défend, l'Union européenne défend son concept de la protection des droits de propriété intellectuelle, et ça couvre les appellations d'origine. Alors concrètement, effectivement, même si le système est universellement reconnu, les noms individuels ont bien sûr fait l'objet de leur protection dans les pays d'origine, en tout premier lieu bien sûr, et on cherche, l'Union européenne cherche à assurer la protection également chez nos partenaires, chez les partenaires avec lesquels ils négocient. Ça fait partie intégrante de toute négociation, c'est pas quelque chose qui est propre à cette négociation avec l'Australie. Et puis plus généralement, c'est pas quelque chose non plus qui est unique à l'Union européenne. On a déjà un précédent dans les relations avec l'Australie, puisqu'il existe un accord sur le commerce des vins qui couvre toutes les questions autour des échanges sur le vin entre l'Australie et l'Union européenne, à l'exception des droits de douane, et qui couvre aussi déjà la protection des appellations d'origine. Donc l'Australie reconnaît et protège toutes les appellations d'origine des vins européens, à l'exception de, vous l'avez cité, Prosecco pour l'instant, tout comme l'Union européenne protège déjà la centaine d'indications géographiques ou d'appellations d'origine australienne. Donc le concept n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que dans le cadre de ces négociations vers un accord de libre-échange, donc nous avons rajouté la protection dans nos objectifs. Nous sommes mandatés par les États membres en vue de la protection des boissons spiritueuses et aussi de tous les autres, la grande variété de produits alimentaires. Vous les avez cités déjà, les fromages, les charcuteries, les fruits et légumes et d'autres catégories de produits. Donc le concept n'est pas nouveau, mais là on s'affronte aujourd'hui à la situation particulière du marché australien, avec effectivement, pour diverses raisons, la présence déjà sur ce marché d'un bon nombre d'indications géographiques européennes, qui sont des indications géographiques européennes, et nous aimerions corriger le tir autant que possible et viser à ce que nos appellations d'origine soient protégées sur le marché australien.
Alors, si vous le permettez, je vais me faire l'avocat du diable. Le diable, en l'occurrence, étant les Australiens, et plus particulièrement les producteurs et agriculteurs australiens. Et ils font valoir deux choses. La première, c'est que beaucoup d'entre eux, pour les produits qui posent problème, sont des descendants d'immigrés qui viennent des pays qui sont les producteur originel de ces produits, et donc ils font valoir que la tradition, le savoir-faire, etc., il leur a été transmis par leurs ancêtres. Par ailleurs, ce sont pour certains de ces produits des business qui représentent des millions et des millions de dollars. C'est le cas de la feta, c'est le cas du Prosecco. Le marché est en plein boom ici en Australie. Et le deuxième point, et c'est sans doute leur argument le plus fort, ils font valoir que les appellations d'origine contrôlée, ils n'ont rien contre quand elles se focalisent sur des produits bien spécifiques, par exemple le camembert de Normandie ou le brie de Meaux. Mais ce qui leur pose problème, c'est que dans la liste qui a été soumise par Bruxelles à Canberra, il y a aussi des produits qui, selon eux, sont des termes génériques. Et typiquement, c'est le cas de la feta, qui, selon ses producteurs, n'a pas d'origine géographique bien précise en Grèce. Et d'ailleurs, là-dessus, il me semble que même en Europe, il y a un conflit autour de la feta, puisque les Danois aussi en produisent. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez à ces agriculteurs face à ces arguments ?
Alors, pour reprendre votre première question, comme vous l'avez dit, l'argument qui est avancé par les communautés grecques ou italiennes qui sont installées en Australie, dans d'autres pays, l'argument sur le fait que ces communautés sont venues avec leur savoir-faire, leur expérience, leurs produits, je dirais que, en fait, ils sont peut-être justement les mieux placés pour reconnaître que ces produits, même s'ils ont amené les non. Ces produits ont acquis avant tout une réputation dans leur lieu d'origine et que dans bon nombre de cas, les spécifications, les qualités et les méthodes de production sont pas, pour être tout à fait honnête, sont pas du tout les mêmes que celles dans leur pays d'origine. Pour prendre le simple exemple de la feta est un produit grec qui est un fromage fait essentiellement à base soit de lait de brebis, soit d'un mélange de lait de brebis et de chèvre. Sur le marché australien et dans d'autres marchés, vous trouverez des produits qui sont appelés feta, et la grande majorité de ces produits sont faits à base de lait de vache. Donc il y a déjà une première différence fondamentale. Je vous passerai les détails techniques, mais il faut savoir que si la feta grecque, donc à base de lait de brebis ou de chèvre, est un produit naturellement blanc, un produit qu'on reconnaît facilement, les produits à base de, si vous tentez de faire le même type de produit, donc de fromage en saumure à base de lait de vache, vous aurez un produit orange, alors naturellement jaunâtre ou orange, alors que vous le retrouvez finalement sous une autre forme. Donc il y a un processus de fabrication qui est fondamentalement différent, et donc les descendants de ces communautés grecques, pour ce qui est de la feta, devraient, pour présenter une image complète de la situation, reconnaître ce fait, c'est que fondamentalement, le produit n'est pas le même à la base, c'est pas le même produit de le même matière première. Donc ça, c'est une première chose. Pour la deuxième question concernant le fait que feta n'est pas un produit qui est lié à une région particulière, ça, c'était pas tout à fait vrai, hein. Il y a des limitations, ce n'est pas exactement tout le territoire grec, par exemple, qui permet la production de feta. Et même si, pour compléter l'argument, que feta, par exemple, n'est pas un nom géographique, rien n'interdit qu'une indication géographique ne soit pas, ou ne comprenne pas dans sa dénomination un lieu géographique. Ça, c'est quelque chose qui est... c'est un fait dans la grande majorité des cas, mais rien n'empêche qu'un nom bénéficie d'une appellation d'origine, même si formellement ce n'est pas un nom géographique, aucun traité ne l'interdit.
Ok. Un dernier point sur cette question, parce qu'elle est quand même importante, et comme je vous l'ai dit ici, elle suscite beaucoup d'inquiétudes, un peu de fantasmes aussi, certes, mais beaucoup d'inquiétudes. Au final, cette fameuse liste, le gouvernement australien l'a enfin publiée il y a quelques semaines. Elle comporte plusieurs centaines de références, mais au final, effectivement, il n'y a qu'une poignée de produits qui posent vraiment problème. Donc, on a cité notamment la feta, le gorgonzola, le prosecco, mais pas grand-chose d'autre, pour être tout à fait honnête. En supposant que demain, dans le cadre de ces négociations, vous, les Européens, finissez par avoir le fin mot de l'histoire. Ces producteurs, donc, qui depuis des années produisent ces produits sous ces noms qui sont donc protégés en Europe, comme la feta, le champagne, vont être contraints d'utiliser d'autres termes, des termes un peu, des descriptions un peu chirurgicales de leurs produits. Pour reprendre encore l'exemple de la feta, certains disent demain on pourra plus dire feta, il faudra dire fromage de brebis qui a trempé dans la saumure. C'est pas très sexy, c'est pas très vendeur, et on peut comprendre qu'ils soient inquiets, non? Vous les comprenez ou...
Je les comprends. C'est vrai que si nous arrivons à obtenir le résultat qui nous a été demandé par les États membres, hein, ce sont les États membres, n'oublions pas, qui mandatent la Commission pour conduire cette négociation. La défense et la protection des appellations d'origine est clairement établie dans ce mandat. Donc si nous arrivons à ce résultat, les opérateurs, les producteurs australiens ont effectivement des changements dans leur méthode de commercialisation, concernant notamment le nom. C'est très franchement une caricature de dire que nous leur donnons ou nous leur prescrivons de garder ou d'utiliser des noms très descriptifs. Nous avons aussi l'exemple dans l'Union européenne, toujours pour le cas de la feta, parce qu'il faut se rappeler que la feta a fait l'objet également longtemps, même après sa protection, sa reconnaissance en tant qu'appellation d'origine dans l'Union européenne. Il y avait des opérateurs, vous l'avez signalé aussi, danois ou français ou allemands, qui utilisaient, il y a des années, la dénomination feta. Depuis 2002, la protection de feta est exclusivement au bénéfice des producteurs grecs étant entérinée. Elle a fait l'objet d'une période de transition de 5 ans pendant laquelle les opérateurs principaux ont eu l'occasion de réaménager leur méthode de commercialisation. Et très concrètement, ces opérateurs sont engagés assez rapidement, même s'ils avaient 5 ans, ils sont engagés rapidement, simplement dans un processus de réétiquetage, de mettre en avant les marques individuelles des producteurs plutôt que de se référencer à la dénomination feta. Et il faut savoir qu'il y a très peu de, il y avait très peu de petits producteurs, ce sont seulement des grands producteurs, et la mise en œuvre de nouvelles étiquettes, de nouvelles appellations s'est faite relativement bénignement. Il n'y a pas d'évidence comme quoi ces produits ont perdu concrètement des parts de marché. C'est un message important aussi que nous voulons dire envers les opérateurs australiens. C'est-à-dire que si nous arrivons à la conclusion et à la protection du terme feta, ce n'est pas les produits en tant que tels qui seront interdits, mais comme vous l'avez souligné, ce sera la dénomination qui est utilisée. Et on peut très bien penser, imaginer que des marques qui sont déjà très connues, qui mettent en avant, qui indique, qui utilise l'utilisation de feta, simplement mettront en avant tout leur marque, et les consommateurs australiens continueront à reconnaître et avoir accès relativement facilement à ces produits et continueront à pouvoir acheter bien sûr librement les produits australiens plutôt que les produits grecs. Juste pour compléter notre expérience, ce que nous avons observé dans l'Union européenne, c'est que avant tout la protection effective de feta en Europe a permis la plus grande circulation du produit grec dans les marchés autres que la Grèce même. Moi, vivant personnellement en Belgique, j'ai pu trouver beaucoup plus facilement, avoir accès beaucoup plus facilement à la feta, sans voir notablement les anciens produits disparaître. Hein. Ils sont toujours là, les produits qui utilisaient feta avant.
Ok, on disait donc qu'il y a une liste avec une centaine de références. Dans cette liste, au final, il n'y a qu'une poignée de produits qui posent difficulté. Mais effectivement, des autres choses que soulignent les syndicats d'exploitation agricole et les agriculteurs eux-mêmes, c'est que le traité, en l'état où il est actuellement, évidemment, il n'est pas signé, il y a encore des négociations en cours, mais je l'ai lu et il y a une clause qui prévoit très explicitement que la liste en question des produits protégés peut être allongée indéfiniment dans le temps et concerner des produits beaucoup plus larges. Et donc, ce qui les inquiète, c'est que cette liste, où selon eux, aujourd'hui, il n'y a que quelques noms qui pour eux sont génériques, elle pourrait demain s'allonger. Et aujourd'hui, par exemple, elle protège le camembert de Normandie, donc les producteurs de camembert en Tasmanie ne sont pas inquiétés, mais ils disent qu'est-ce qui empêchera Bruxelles demain de rajouter le camembert tout court dans la liste, et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle visibilité on peut avoir sur nos affaires dans l'avenir si, peut-être dans 3 ans, 5 ans, le produit qu'on vend depuis des années et qui nous rapporte des sous, eh bien demain, on devra changer son nom.
Alors premièrement, il est impossible d'anticiper que l'Union européenne présente dans le futur, une fois l'accord en vigueur, une demande pour voir protéger, pour prendre l'exemple que vous avez pris, camembert, et pas seulement camembert de Normandie. Pour une raison toute simple, c'est que lorsque l'appellation d'origine camembert de Normandie a été protégée, le débat en interne, dans l'Union européenne, pas seulement en France, était déjà là, puisqu'il y avait déjà des producteurs de camembert en dehors de la zone normande de production reconnue par l'appellation d'origine, qui utilisait très très largement la dénomination camembert, que ce soit en France ou dans d'autres produits, il n'y avait pas de limitation. Et la protection, lorsque l'appellation camembert de Normandie a été protégée, il y a même une disposition légale additionnelle qui clarifie que le terme camembert n'est pas protégé. Et partant de cette base, c'est un concept très très important, c'est que nous ne pourrions pas demander à l'Australie ou à n'importe quel autre partenaire non européen qu'il protège un terme comme le camembert alors que ce terme n'est pas protégé dans l'Union européenne. Ça, c'est un principe fondamental que l'Union européenne respectera fondamentalement. Après, un deuxième point concernant la possibilité d'étendre la liste des appellations d'origine dans le futur, c'est une demande encore une fois de nos États membres, parce qu'il faut bien se rappeler que vous avez souligné qu'il y a des centaines, en fait, pour être tout à fait précis, au-delà des appellations d'origine pour le vin qui sont déjà protégées par un accord distinct, comme j'ai signalé, notre demande aujourd'hui porte sur la protection de 172 indications géographiques sur les produits alimentaires au sens large et 236 boissons spiritueuses. Donc vous avez à peu près, si je ne me trompe pas, un tout petit peu plus de 400 indications géographiques. Il faut... cela représente relativement faible pourcentage du nombre total d'appellations d'origine européenne qui s'élève aujourd'hui à 3400 au total, si j'inclus également le vin. Donc, dans cette négociation, les États membres ont accepté que nous ne demandions pas la protection de toutes les indications géographiques. C'est un résultat que nous avons obtenu, certes avec surtout les pays du voisinage européen, mais c'était une demande qui est tout aussi légitime que de demander la protection seulement d'un certain nombre d'IG. Mais les États membres nous autorisent à demander la protection simplement d'une fraction de nos indications géographiques, seulement dans la mesure où il y a la possibilité de protéger dans le futur d'autres indications géographiques. Cela étant dit, il faut être très pragmatique, en ce sens que les indications géographiques qui posent potentiellement problème sont celles qui sont reconnues dans l'Union européenne depuis très longtemps, qui sont connues donc au niveau mondial et qui font l'objet justement de conflits parce qu'ils ont été utilisés par d'autres producteurs que les producteurs européens, et on a déjà cité ces noms. Donc c'est pas... Il est très peu probable que la protection d'éventuelles nouvelles indications géographiques soit une source de conflit dans le futur.
Dernier point sur cette question des indications géographiques. Après, on va élargir un petit peu le débat. Vous nous disiez tout à l'heure que les exemples passés de traités et d'accords qui ont été négociés avec d'autres pays au sein même de l'Union européenne, au final, les producteurs... illégitimes, si j'ose dire, de certains de ces produits, au lieu de faire leur marketing autour du produit qu'ils vendent, ils ont simplement mis en avant leur marque qui était déjà connue, et au final, tout va bien, il n'y a pas eu de banqueroute, etc. Bon, pourquoi pas. Ma question, c'est, est-ce que vous ne pensez pas que pour les producteurs de fromage ou de vin en Australie, enfin en l'occurrence de Prosecco, puisque vous le disiez, il y a déjà un accord plus large sur le vin, est-ce que les producteurs australiens n'ont pas plus à perdre qu'à gagner dans cette négociation et dans ce traité de libre-échange ?
Alors, pour prendre l'exemple de Prosecco, c'est un exemple particulier parce que le Prosecco n'est pas protégé dans l'Union européenne, pas pour une question du fait qu'il soit générique, mais sur la base du fait que Prosecco est un cépage reconnu comme tel en Australie. Et donc il figure, l'appellation, le terme Prosecco figure sur les étiquettes d'un certain nombre de vins australiens. Comme indication de la variété du cépage, c'est quelque chose qu'on retrouve dans bien d'autres cas pour présenter un vin, un chardonnay, un shiraz, etc. Cela étant, la question aujourd'hui est que le Prosecco a connu un essor phénoménal au niveau commercial, bien au-delà des frontières italiennes. Les efforts de promotion de ce type de produit viennent entièrement des efforts des producteurs italiens qui ont investi massivement et qui ont fait connaître mondialement ce vin originaire donc de Vénétie. Et aujourd'hui, avec une production de plus de 350 millions de bouteilles, donc c'est presque deux fois la production de champagne en volume, hein, donc c'est une production très très importante, il faut objectivement reconnaître que le succès mondial est essentiellement dû aux efforts des producteurs italiens. Donc aujourd'hui, même si nous entendons parfaitement la question de l'existence de la variété et du cépage Prosecco en Australie, lorsqu'on voit la production australienne et les références quelquefois assez évidentes à une origine italienne des vins, on vient encore une fois à l'évocation, il est aussi légitime de s'interroger sur les motivations des producteurs australiens à continuer à utiliser Prosecco massivement de cette façon. Donc plus que perdre, il faut vraiment se poser la question, savoir si c'est aussi légitime que des producteurs non italiens bénéficient aussi grandement des efforts de promotion des producteurs italiens.
Alors, on va sortir un peu des indications géographiques. J'ai encore deux, trois petites questions pour vous. On va retourner en Europe, puisque ces négociations sur des traités de libre-échange, en général, des deux côtés, ça crée un petit peu des inquiétudes et des résistances. Je prends pour exemple le cas du traité de libre-échange que l'Union européenne a signé avec le Canada. Il n'a pas été extrêmement bien perçu par une partie des agriculteurs européens. Est-ce que vous ne craignez pas que... Alors, on en parle moins, j'ai l'impression, du traité avec l'Australie, mais est-ce que vous ne craignez pas aussi qu'en Europe également, certains agriculteurs, producteurs s'inquiètent de l'arrivée prochaine de produits donc avec des taxes abaissées, voire supprimées, sur des produits australiens? Je pense notamment aux producteurs de bœuf. On sait tous que le bœuf australien est excellent. Est-ce que ça ne fait pas un peu peur en Europe et comment vous préparez à ça?
Je crains pas que les agriculteurs s'inquiètent. Je sais que les agriculteurs s'inquiètent, puisque nous avons, dans le cadre de la préparation de ces négociations et bien en amont du lancement de cette négociation, nous avons très ouvertement, de façon très transparente, informé régulièrement toutes les parties prenantes et tous les secteurs économiques dans l'Union européenne, que ce soit pour l'agriculture ou tout autre secteur. Nous avons consulté publiquement et appelé tous les secteurs de l'économie européenne à se manifester sur leurs attentes, leurs inquiétudes. Sans surprise, donc nous avons reçu effectivement des craintes de la part d'un certain nombre de secteurs agricoles, le bœuf, le sucre et d'autres encore. C'est probablement légitime, parce que même si l'agriculture européenne est robuste, c'est globalement, il ne faut pas oublier que certains secteurs ou dans certaines régions sont beaucoup plus sensibles. L'élevage bovin, notamment, est un secteur qui est quelquefois le seul élevage ou la seule pratique agricole qui permet de maintenir des populations rurales, notamment dans des zones isolées où seul l'élevage permet d'avoir un revenu d'origine agricole. Je pense à des, pour la France notamment, les régions de moyenne montagne, le massif central ou les basses vallées alpines. Et donc ce secteur dans ces régions est extrêmement sensible. Donc s'il y a un impact négatif, c'est toute une économie de ces zones rurales qui risque de disparaître. Donc, que ce soit pour le bœuf ou d'autres produits sensibles, l'Union européenne défendra aussi cette sensibilité dans cette négociation. Donc il y a différents moyens d'adresser ces craintes, avec notamment une libéralisation partielle ou des mesures d'accompagnement de la libéralisation au profit des producteurs australiens.
Et un dernier point donc, que je voulais voir avec vous, peut-être que ça n'est pas le cas, mais je me suis laissé dire que l'un des gros sujets au cœur de ces négociations, c'était la question de l'environnement et des efforts que fait ou pas justement l'Australie pour avoir des pratiques un peu plus vertueuses. Le gouvernement actuel n'est pas particulièrement très moteur justement sur la question de la lutte contre le changement climatique. Est-ce que ça pourrait être un point de blocage majeur, voire au point de faire capoter ces négociations, selon vous?
Quand vous voulez, pour s'inscrire,
ça, a priori, télécharger www.sbs.com.au. Donc, nous, on a demandé aux Australiens de référencer le traité de Paris, notamment dans l'accord. Donc, on veut être sûr que les Australiens vont rester dans l'accord de Paris et qui respectent leurs objectifs. Maintenant, ça a été reçu assez positivement par le gouvernement. Donc c'est quelque chose qu'ils peuvent envisager. Mais c'est certainement un sujet, et vous avez raison que ce qu'on appelle en anglais le sustainability, c'est très important. Et donc on regarde aussi dans d'autres secteurs comment on peut faire cet accord comme un moteur pour un meilleur environnement. Et notamment, on a un problème avec les standards pour l'essence de l'Australie qui sont en arrière par rapport à un bon nombre de pays, entre autres même l'Inde et la Chine. Le problème de ça, c'est que les voitures européennes les plus performantes en termes d'essence ne peuvent pas être exportées en Australie. Donc ça, c'est un problème. Et l'autre problème, c'est que l'Australie à une pollution plus importante qu'il pourrait avoir avec de meilleurs standards. Donc ça, c'est un autre sujet qu'on discute et qui peut être une possibilité pour avoir des bénéfices pour l'environnement de cet accord.
Ben, je vous remercie tous les deux, encore une fois, d'être venus dans nos studios pour nous éclairer un peu sur ce sujet pointu et très important. On le disait au début de l'émission, 100 milliards de dollars d'échanges annuels entre l'Union européenne et l'Australie, et peut-être 30 à 35% de plus demain si l'accord est signé. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.